France Inter.
Ce soir, nous restons en compagnie de notre héros de la semaine, j'ai nommé Robert Plant. Dans l'émission d'hier, on l'a plutôt entendu rugir. Eh bien, ce soir, ce sera plutôt sa face tendre qu'on va éclairer, peut-être moins connue, mais également riche de sommets. Un son, un style qui nous ramène loin en arrière, parce que quand le chanteur Robert Plant chantait la chanson qu'on vient d'entendre, Colors of a Shade, il y a plus de 30 ans, en 1993, eh bien, D'une certaine façon, c'était déjà rétro, en tout cas c'était classique. Je l'évoquais dans l'émission d'hier, Robert Plant revient à 77 ans au premier plan cette année puisqu'il vient tout juste de publier un nouvel album, des chansons enregistrées en compagnie d'amis musiciens, des voisins proches du village des Midlands anglaises, un de ces paysages verdoyants qui ont inspiré à Tolkien sa trilogie du Seigneur des Anneaux, des paysages riches de légendes au cœur desquels eh bien, le chanteur a grandi. Un album qui porte pour titre Saving Grace, c'est le nom du groupe à l'intérieur duquel Robert Plant a plutôt cherché à se fondre plutôt qu'à se mettre en avant. D'ailleurs, toutes les photos promotionnelles montrent les cinq membres du groupe, dont la chanteuse Susie Dian, sur le même plan. C'est-à-dire que jamais on ne voit le chanteur à la légendaire aura, hein, celle de Led Zeppelin, se mettre en avant. D'ailleurs, il y a quelques années, Saving Grace s'est produit, enfin histoire de se roder, lors de divers festivals de folk au Royaume-Uni, sans même que le nom de Robert Plant soit mentionné sur l'affiche. Dans le Very Good Trip d'hier soir sur France Inter, je me suis efforcé d'éclairer ce qui me paraît avoir toujours été le plus vital dans la musique qu'a créé Plant après Led Zeppelin, à savoir une certaine recherche de fusion entre d'un côté le blues, hein, la musique qui a plus de 60 ans l'a frappé comme une révélation. D'autre part, ses racines folk anglaises, hein, qui sont d'ailleurs présentes dès le début chez Led Zeppelin. Et puis enfin, un autre aspect primordial dans cette fusion, les rythmes et gammes propres aux musiques d'Afrique du Nord. Une fusion absolument unique en son genre, comme vous avez pu l'entendre si vous avez écouté bien sûr l'émission d'hier, qui est toujours disponible en podcast sur les applications de Radio France. Aussi vital me semble être une autre facette chez Robert Plant, son amour des chansons d'autrefois, celles de son enfance ou de sa jeunesse liées à un certain courant qui a traversé les années 60, plutôt la fin même des années 60, puisque quand il a eu 20 ans, hein, je rappelle qu'il est né en 1948, Plant a découvert avec émerveillement le mouvement psychédélique dont l'origine se situait sur la côte ouest de la Californie et dont la ville de San Francisco a été, pour ainsi dire, l'épicentre. Robert Plant a découvert là-bas, à l'occasion des toutes premières tournées de Led Zeppelin, des groupes comme Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service ou Moby Grape, bien oubliés aujourd'hui, hormis bien sûr des spécialistes. Comme chez Led Zeppelin, le blues évidemment pouvait être à la source de la musique que créaient ces musiciens, ces groupes, mais enfin pas seulement. Ils ont pu exploiter aussi, en adaptant à leur sensibilité, une sensibilité hein, particulière qui était liée au mouvement hippie, hein, qui emportait alors plus d'un vers des rêves cosmique, en adaptant donc à leur sensibilité tout un vivier de ballades folk traditionnelles ou petits contes austères, tantôt tragiques, tantôt grinçants. Eh bien, c'est ce vivier-là même dans lequel n'a cessé de puiser Bob Dylan et d'autres. En tout cas, Robert Plant reste un chanteur très sensible, très profond de ballades, auquel il a toujours su apporter une sorte de dimension cosmique, comme je vous le disais. Témoin, cette version très ample d'une chanson qu'on connaît bien en France, enfin si on a un bon nombre d'années derrière soi, puisque Johnny Hallyday l'avait adaptée en français sous le titre « Si j'étais un charpentier », mais à l'origine, « If I were a carpenter », c'est une composition de Tim Hardin, un musicien et chanteur du nord de la côte ouest des États-Unis, et Bobby Darin l'avait interprété le premier, mais enfin son auteur, Tim Hardin, merveilleux auteur et chanteur, un grand guitariste, un des phares de la période, l'avait enregistré lui-même en 1967. « If I Were a Carpenter », ça a été un tube mondial, notamment grâce à une reprise du groupe vocal noir de Détroit, les Four Tops, et puis bien sûr aussi Johnny Cash, parmi d'autres, l'a interprété également. Et enfin, Robert Plant, à son tour, en 1993. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made fall behind? Save my love. Une orchestration très psychédélique pour cette reprise par Robert Plant d'une chanson qui s'appelle Morning Dew, comme la rosée du matin. Une chanson qui, au cours des années 60, s'est imposée comme un standard. À l'époque, on ne savait pas exactement qui l'avait écrite. Personne ou presque ne connaissait son auteur, la canadienne Bonnie Dobson. Mais les musiciens du milieu folk américain des années 60 se l'étaient vite transmise. Cette chanson Morning Dew figurait notamment au répertoire du grand groupe psychédélique de la région de San Francisco, Grateful Dead, qu'il a enregistré en 1967, mais elle figurait également au répertoire de deux autres groupes, et pas des moindres, qui venaient eux de Los Angeles, j'ai nommé Love et les Birds. Cela dit, c'est un certain Tim Rose qui fut associé à ses débuts à Mama Cass, à la grande voix du groupe The Mamas and the Papas, qui a fait connaître cette chanson en Europe, au point d'ailleurs de se l'approprier et d'en signer les paroles. D'ailleurs, ce que l'auteur Bonnie Dobson a naturellement vivement contesté. Morning Dew, c'est un bon exemple si on cherche à souligner le caractère arbitraire des distinctions entre divers genres de musique populaire, en tout cas leur porosité. On dit chanson folk. Bon, d'accord, pourtant, la chanteuse écossaise Lulu, grande voix soul, très méconnue en France, une voix un peu écorchée, même génération que Robert Plant, a interprété une version très rhythm and blues soul de Morning Dew, c'était en 1968. La version que en a donnée Robert Plant plus de 30 ans après, en 2002, est une recréation totale. Comme je vous le disais, il a cet art de transcender les chansons qu'il choisit par son interprétation, de leur apporter en tout cas une dimension différente. Les paroles de Morning Dew sont toutes simples, elles semblent venir d'un autre temps, celui de vieilles chansons qu'on chantait il y a plusieurs siècles aussi chez nous, que je pense à Marlboro s'en va en guerre, évocation de la mort d'un soldat au combat. Les paroles de Morning Dew touchent à la guerre, mais de manière peut-être plus allusive, plus floue, c'est plus mystérieux. Un homme et une femme se réveillent un matin et l'homme dit à sa compagne « Je ne vais pas t'emmener en promenade ce matin, j'ai entendu la voix d'un jeune homme qui pleurait. » Et puis si finalement, allons-y, qu'est-ce que ça peut changer après tout ? L'évocation de la guerre, bien sûr, de la mort violente qui rôdait autour de cette génération des boomers. Il y avait le Vietnam, bien sûr, à l'époque, déjà Israël et le Moyen-Orient, l'Amérique centrale, l'Afrique noire, il y avait tellement de conflits déjà. En tout cas, la version de Plant transforme la chanson Morning Dew en une sorte de vision psychédélique avec ses notes de guitare un peu ululantes, lointaines. Il y a une sorte de douceur un peu surnaturelle qui met la peur à distance et en tout cas, ça accentue cette envie de s'enfuir dans la rêverie pour échapper à une dure réalité. La chanson que je vous propose d'écouter maintenant s'appelle All the King's Horses. Elle fait un peu vivre la même ambiance. Robert Plant l'a enregistrée il y a 20 ans, en 2005, pour son album Mighty Rearranger, qu'il a signé à égalité avec un groupe qui s'appelait The Strange Sensation, qui venait tout juste d'assembler avec le guitariste Justin Adams. Je vous en parlais dans l'émission d'hier, qui était également consacrée à l'ex-chanteur de Led Zeppelin. Alors, Justin Adams, d'ailleurs, est un musicien qui a fait approfondir encore davantage à Plant son immersion dans certains rythmes et gammes modales propres à des musiques d'Afrique du Nord. Alors, All the King's Horses, le titre, c'est une allusion à une comptine célèbre en Grande-Bretagne, Humpty Dumpty, Humpty Dumpty sat on a wall, etc. Humpty Dumpty, c'est un gros œuf animé qui a des bras et des jambes. Alors, il tombe du haut d'un mur et il se casse en mille morceaux et dit cette petite comptine que les enfants britanniques connaissent très bien. Tous les chevaux et tous les gens du roi n'ont pas pu remettre Humpty ensemble. Et alors là, on a l'impression, donc, dans All the King's Horses, que Plant évoque la guerre, mais autrement. Un soldat rentre du combat, croit-on deviner, et il retrouve l'amour de sa belle. Ça pourrait être aussi une chanson de chevalerie. Robert Plant, ce soir, dans Very Good Trip, sur France Inter.
On the king's horses. beginning, over and over, and over again. There's no telling where I've been. I've seen on the king's horses, on the king's men. I'll weave a circle and a song through down my thank you.
Impossible de consacrer une émission d'une heure à Robert Plant sans écouter un extrait de ce qui reste une de ses plus grandes réussites, un de ses plus grands succès récents, hein, 2007, c'est pas si ancien. Cette chanson s'appelle Killing the Blues et elle figure dans un album intitulé Raising Sand que le chanteur a enregistré en duo avec une collaboratrice plutôt inattendue, en tout cas à l'époque, l'américaine Alison Krauss. Alors cette collaboration, c'est un peu, si vous voulez, l'alliance de l'eau et du feu. Alors d'un côté Plant, un chanteur sauvage et instinctif, et de l'autre Alison Krauss, une musicienne extrêmement disciplinée, prodige du violon country, qui depuis l'enfance maîtrise une forme de chant qui ne souffre aucune imprécision, parce que le chant dans la bluegrass country, ça doit se mêler à d'autres voix en harmonie dans une forme de musique très très codifiée. Le musicien texan T-Bone Burnett, sorte de maître de musique, hein, immense connaisseur des musiques traditionnelles américaines, a fait travailler, c'est lui qui a eu cette idée, a fait travailler ces deux-là ensemble. Il a pu dire de Alison Krauss qu'elle était la Aretha Franklin du bluegrass, hein, qui est la musique country des montagnes. Alison Krauss se rappelle que la première fois que elle et Plant ont essayé de chanter ensemble dans le salon de sa maison à Nashville, Plant était mort de trac. Il essayait des trucs différents à chaque fois, alors que bon, elle est très respectueuse, elle a l'âge d'être sa fille, et puis elle avait quand même en face d'elle la légende de Led Zeppelin. Elle lui a dit, écoute, est-ce que tu pourrais pas juste chanter deux fois de suite la même chose pour que je puisse caler mon harmonie? Plant, faut dire, était mal à l'aise de se retrouver, pour ainsi dire, à poil. Il a expliqué à l'époque qu'il avait l'habitude de se cacher derrière un micro et de faire son show, mais que là, c'était tout à fait différent. C'est comme ça qu'il a été amené à travailler dans sa voix la douceur et la sourdine sur des reprises country, blues et rock'n'roll parfaitement choisies, dont celle que vous venez d'entendre, Killing the Blues. À l'origine, c'est une composition d'un certain Roland Sally, un accompagnateur du chanteur californien bien connu Chris Isaak. Alors, j'ai eu la chance de voir et d'entendre sur scène Robert Plant et Alison Krauss à Paris. Leur tournée européenne est passée par la capitale en 2008. Ils étaient soutenus par un groupe absolument magnifique qui était dirigé par le même T-Bone Burnett. C'était vraiment une découverte pour moi de voir et d'entendre un Robert Plant humble, tout en retenue, chantant merveilleusement. Alors oui, la collaboration entre ces deux-là a été une sorte d'échange aussi, parce que pas seulement un clash heureusement résolu, parce que même si Alison Krauss est américaine, cette descendante d'immigrés allemands qui a grandi dans une ville moyenne située au sud de Chicago, la population étant majorité blanche, eh bien, elle ne connaissait pas trop le blues. Les musiques traditionnelles, folk, country, mais enfin le blues, un peu moins, voire pas du tout. Contrairement à l'anglais, Robert Plant, qui évidemment connaît ça comme sa poche. Alors, quand elle a découvert ces chansons qui ont fait l'éducation de Plant, Alison Krauss a fait ce commentaire très intéressant qui corrobore d'ailleurs tout ce qu'on peut savoir des sources de la musique country, et je la cite. « Pour moi, expliquait Alison Krauss, tout ça, ça venait de Jimmy Rogers, le grand pionnier de la musique country, et pour lui, ça venait de Robert Johnson, évidemment une des grandes figures du blues, évidemment. » Je vous propose d'écouter maintenant à nouveau Robert Plant, cette fois seul, dans une chanson qui s'appelle Cindy, I'll Marry You Someday. C'est une chanson extraite d'un album qu'il a publié en 2010 et qui s'appelle Band of Joy. Band of Joy, c'est une allusion au nom du groupe dans lequel il chantait à ses débuts à Birmingham. C'était vers le milieu des années 60, plutôt la seconde moitié. Et c'est un disque qu'il a réalisé sous la supervision de Buddy Miller. C'est un collaborateur proche de la chanteuse Emmylou Harris, tout comme du rebelle de Nashville, Steve Earle, un enregistrement à l'orientation country blues, un très traditionnel, comme dans ce titre qui est accompagné d'un banjo archaïque sorti tout droit des montagnes des Appalaches.
Where'd you get your liquor? Where'd you get your dram? Come all the way from England to steal your pretty hand. Apple like a cherry, cherry like a rose. How I love you, Cindy. Oh, God in heaven knows. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. She had it once before. She spilled it on a Saturday upon a hardwood floor. And once I had a banjo, every string was twine. The only tune that I could play was I wish that girl was mine. So get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. Her fan, she swore I was the prettiest thing in the shape of mortal man. I wish I had a needle as fine as I could sew. I'd sew the girls to my coattail and down the road I'd go. Get along home, send it, send it. Get along home, send it, send it. Get along home, send it, send it. I'll marry you sometime. Get along home, send it.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Filled with love, I love the
carries all before. A passion in the flood. I lie beneath the rainbow. Now your tears have gone. And I'll sing my song for you. And I'll carry on.
Rainbow, un titre récent de Robert Plant, un titre qui remonte à l'année 2014 et qu'on peut trouver dans un album qui s'appelle drôlement Lullaby and the Ceaseless Roar, c'est-à-dire berceuse et l'incessant rugissement, ce qui correspond bien aux deux facettes de Robert Plant. C'est un album qu'il a enregistré en Angleterre avec ses collaborateurs des années 2000, c'était avant sa parenthèse américaine, puisque au début des années 2010, eh bien Plant avait refait sa vie, il était parti s'installer une partie du temps à Austin, au Texas, pour y partager la vie de Patty Griffin, une compositrice de chansons qu'il avait rencontrée alors qu'elle était choriste dans son groupe de tournée à lui. Hélas, ça n'a pas tenu et Plant est retourné vivre dans le pays de son enfance, hein, les Midlands anglaises, un pays dont les paysages, les brumes et les mystères continuent encore aujourd'hui à l'inspirer. Robert Plant vit aujourd'hui dans une ancienne ferme près de la petite ville de Kidderminster, c'est au sud-ouest de Birmingham, mais c'est pas du tout un paysage post-industriel comme on pourrait le croire, c'est au contraire très verdoyant à proximité de la grande forêt de Wyre, c'est le plus grand parc naturel du Royaume-Uni. Le jeune Robert a grandi dans une famille unie où la musique était très présente puisque un de ses deux grands-pères, violoniste, jouait dans un orchestre municipal qui accompagnait la projection des films muets dans les cinémas locaux. Son père, ingénieur dans le civil, avait servi pendant la guerre dans la Royal Air Force, hein, comme beaucoup de Britanniques. Et quant à sa mère, elle était, bah, je vous l'ai dit hier, d'origine tzigane. Et cette mère au foyer a certainement joué un rôle, conscient ou inconscient, je l'ignore, dans le nomadisme musical de Robert Plant, qui est capable de se sentir chez lui à Marrakech, comme dans le désert du Mali. Alors très tôt, il chantait à la chorale, mais évidemment, sa vie a complètement changé quand il a découvert le jazz. D'abord, il y avait un gars dans sa rue qui avait un tourne-disque chez lui et quelques disques dans son foyer, ce qui était très peu répandu. Et parce qu'il faut rappeler que la radio britannique, au début des années 60, elle n'offrait pas grand-chose à se mettre sous la dent quand on était très jeune et qu'on était avide de musique nouvelle. Pour écouter la musique qu'on aimait, il fallait aller à des concerts. Et là où il était, près de Birmingham, à chaque fois qu'il y en avait un, il se précipitait. C'était un événement auquel tous les gamins se ruaient. Et comme l'a dit Mick Jagger un jour, en ce temps-là, si on voulait écouter de la musique, souvent, eh bien, on était obligé d'en faire. Le jeune Robert a été à la fois passionné par le rock'n'roll, il a vu Gene Vincent chanter à Birmingham, ça lui a donné vraiment envie d'être sur le devant de la scène, et puis aussi il a été passionné par le blues, évidemment central pour lui. Il a notamment croisé la route de Sonny Boy Williamson, une légende vivante, hein, qui était de passage à Birmingham. Il paraît que Sonny Boy Williamson, quand il était dans son hôtel à Birmingham, enfin il l'a fait au moins une fois, il a cuisiné un lapin dans le percolateur de la grosse cafetière qui était dans le hall de l'hôtel, voilà. Il a aussi rencontré très tôt Robert Plant des étudiants dans un institut de beaux-arts local, des érudits qui parlaient de musique, de jazz, de blues, avec un sérieux passionné. Ça a beaucoup, beaucoup compté pour lui. Il faut souligner aussi que Plant a été exposé très jeune au reggae, parce qu'il y a une forte communauté de Jamaïcains et d'Antillais en général à Birmingham. Robert Plant a tout chanté. Il a chanté des ballades à ses débuts, même un de ses premiers enregistrements, c'était l'adaptation d'un slow italien. Et puis, il a chanté par la suite dans un groupe de blues qui s'appelait les Crawling Kingsnakes. Sa famille le destinait néanmoins au métier d'expert comptable, mais au bout de 15 jours, le jeune Robert a tout lâché. Et voici ce qu'il a déclaré. « J'ai quitté la maison à 16 ans et j'ai entamé mon éducation musicale, passant de groupe en groupe, approfondissant ma connaissance du blues et d'autres musiques qui avaient pour moi de la substance. » Ce qui ne l'a pourtant jamais empêché d'apprécier la beauté et la profondeur de chansons très populaires, parfois cachées derrière une facilité apparente. Et parallèlement, bien sûr, à ce parcours de chanteur, apprenti chanteur, Robert Plant a dû gagner sa vie comme ouvrier non qualifié, exerçant toutes sortes de métiers durs, notamment terrassier. Alors comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Robert Plant, en 1968, chantait dans un groupe de blues et de soul qui s'appelait Band of Joy, et dans lequel figurait à la batterie son copain de Birmingham, John Bonham. Ce groupe avait joué en première partie d'un chanteur qui avait alors une sacrée cote et qui s'appelait Terry Reid, on vient hélas d'apprendre sa mort, c'était au mois d'août. Et Terry Reid, je vous disais, était très connu à l'époque. Il avait chanté lui-même en levée de rideau pour les Stones comme pour Cream. Alors, c'était logique, Jimmy Page avait sollicité ce Terry Reid pour animer une nouvelle formation d'un groupe qui s'appelait les Yardbirds. Mais malheureusement, Reid, victime de son succès, si j'ose dire, avait d'autres engagements. Il devait partir en tournée, je crois, en première partie des Stones aux États-Unis. Alors, Reid a suggéré un inconnu qu'il avait croisé, Robert Plant, qui il avait vu jouer en première partie de son propre groupe. Alors, Plant a emmené avec lui John Bonham et c'est, paraît-il, Alexis Corner, le maître de blues des Rolling Stones, qui a organisé lui-même la première rencontre entre Jimmy Page et Robert Plant. Page a été absolument enthousiasmé par le bonhomme, les deux bons hommes d'ailleurs, hein, Plant et Bonham, et c'est ainsi que Led Zeppelin est né, complété par le bassiste, joueur de clavier et arrangeur orchestral John Paul Jones. Voici un titre que Robert Plant a composé avec le guitariste Justin Adams, je vous en parlais hier, un titre qui figure dans son album Carry Fire, qui est paru en 2017, une belle fusion dans laquelle sa façon plus douce de chanter, qu'il avait acquise auprès de Alison Krauss, se mêle, vous allez l'entendre, très naturellement à son style habituel. La chanson s'appelle The May Queen et c'est ce soir dans Very Good Trip sur France Inter.
freedom.
Sommet tardif de Robert Plant, Can't Let Go, ça figure dans le second album qu'il a enregistré avec la violoniste et chanteuse Alison Krauss, un album intitulé Raise the Roof, qui est paru il n'y a pas très longtemps, en 2021. Alors, cette chanson qu'on vient d'entendre, on pourrait dire, sans se tromper, qu'elle est blues, qu'elle est country ou qu'elle est rock'n'roll, elle appartient dans sa forme primitive à une sorte de source commune à ces types de musique. Comme je vous disais, plus on écoute de musique, plus les frontières entre les genres se brouillent et surtout se révèlent aussi arbitraires que artificielles. Un mot sur la chanson qu'on vient d'entendre, Can't Let Go. Hein, je suis comme un train qui a déraillé, comme quelqu'un qui en a tiré dessus. Je sais que c'est fini avec toi, mais j'arrive pas à lâcher l'affaire. J'espère encore, quoi, Can't Let Go. Une chanson que la Texane Lucinda Williams avait interprétée dans son inoubliable album de 1998, Car Wheels on a Gravel Road, et que Robert Plant et son producteur artistique texan également, T-Bone Burnett, n'avaient pas oublié quand il s'est agi donc de trouver des chansons pour le second album de Plant en duo avec Alison Krauss. Il y a deux guitaristes exceptionnels qui ont participé à cet album, Mark Ribot, accompagnateur historique de Tom Waits, mais bien plus encore, et puis aussi le très grand guitariste de jazz, Bill Frisell. Voilà arrivé le terme de cette émission et le terme d'ailleurs de notre voyage en deux parties, hier et aujourd'hui, en compagnie de Robert Plant. Le moment de boucler la boucle et d'écouter un dernier titre tout récent qui figure dans le nouvel album que Plant vient de publier en compagnie de son nouveau groupe Saving Grace. Là encore, c'est une reprise du temps de sa jeunesse, une chanson qui a été créée initialement en 1969, par le groupe de San Francisco Moby Grape, un des meilleurs de la période psychédélique, pas des plus connus du grand public. La chanson s'appelle It's Beautiful Day Today. C'était une composition du bassiste et chanteur Bob Moseley, qui est toujours en activité d'ailleurs à 83 ans. Et Robert Plant chante avec Susie Dian, donc Saving Grace, une chanson somme toute pleine d'espoir. Je cite: les gens dans la rue qui courent partout à toute allure, il faut bien qu'ils aillent quelque part, mais moi, je préférerais qu'ils disent quelle belle journée aujourd'hui. Oui, on préférerait tous ça au fond.
I'd rather hear people say It's a beautiful